Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une femme au parcours exceptionnel, une femme puissante, comme on dirait aujourd'hui. Quelques chiffres pour vous la faire deviner. 4 routes du Rhum, 4 transats anglaises, 2 solitaires du Figaro, une white bread, une transat et des records de traversée à l'appel. Cette femme, c'est Florence Artaud, qui en 1990, à 33 ans, pulvérise le record de la route du Rhum. Une pionnière portée au nu, fascinante, mais dont la vie de marin marine a suscité également une vraie défiance. Fille à papa, shootée aux médias, opportuniste, alcoolique peut-être. Les critiques n'ont jamais cessé contre ce personnage passablement transgressif et donc forcément intéressant. Alors, qui était vraiment Florence Artaud ? De l'enfant gâté à la tête brûlée solitaire, de la mère de famille libre à la quadragénaire inculpée pour violence volontaire, comment expliquer une telle fureur de vivre ? Notre invité aujourd'hui, Yann Kefelec, écrivain bien sûr, mais également marin, auteur de La mer et au-delà, qui vient de paraître chez Calman Lévy, un récit consacré à Florence Artaud, cette Antigone indomptée, pour reprendre la jolie formule de l'écrivain. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le sport maintenant avec d'abord la route du Rhum. Le départ a été donné aujourd'hui, vous le savez, depuis Saint-Malo. Il y avait des dizaines de milliers de personnes sur la côte pour voir les 39 concurrents et des milliers de bateaux accompagnateurs sur l'eau.
5 novembre 1978, le port de Saint-Malo est en ébullition. La cité corsaire assiste au départ de la toute première transatlantique française en solitaire, direction Pointe-à-Pitre. Cette course, créée par le sponsor Michel et Thévenon, met au défi le monopole que détiennent les Britanniques sur les mers, histoire de renverser une rivalité pour le moins séculaire dans l'histoire des deux pays. Mais ce n'est pas tout. Pour la première fois, cette course rassemble monocoques et multicoques, sportifs néophytes ou confirmés, un règlement baroque. Un peu, oui. N'empêche que 38 concurrents sont au départ, dont Olivier de Kersauzon, Mike Birch et Alain Collat, en un mot, les meilleurs. Mais surprise, cette année-là, il y a aussi une jeune femme, tout juste sortie de l'adolescence. Elle a le visage grave, de longs cheveux châtains, une allure mince. Elle n'a pas l'air impressionnée, pas du tout. Et elle compte bien arriver à Pointe-à-Pitre en un temps record. La course pourtant est dangereuse. À cette époque, on navigue encore à l'aide d'un sextant et d'une carte. Les balises Argos et autres GPS n'existent pas. En outre, le Cap des Açores est réputé imprévisible, pour ne pas dire périlleux. La course s'est donc vite surnommée la Diagonale du Fou. La jeune Florence Artaud en a conscience, d'autant que sur les courants de l'Atlantique, elle ne connaît encore pas grand-chose, elle qui n'a navigué que sur la Méditerranée. Alors, la veille du départ, elle demande conseil à son ami Philippe Poupon, qui lui offre l'almanach du marin breton avec les horaires des marais. Un peu juste tout de même avant de se lancer, comme elle le raconte à Paris Match.
Cette première route du Rhum, c'est comme si j'avais fait l'école buissonnière. J'avais tout juste 21 ans, et puis je m'étais endettée pour devenir propriétaire de mon bateau. Sur ce petit monocoque, j'ai quitté le port de Saint-Malo dans le brouillard, la larme à l'œil aussi, et puis le ventre noué quand même. Il y avait un monde fou sur les quais. Kersauzon, Collard, Aiguidel, tous les grands étaient là. La peur d'arriver dernière et d'être ridicule... me hantait en fait. Je savais que j'aurais jamais les biceps de Kersauzon, mais en solitaire ça va, ça se passe surtout dans la tête en fait, et de ce côté-là, ça va. Dès que j'ai terminé une manœuvre, je prépare la suivante pour ne pas perdre une minute.
Elle est déjà très pro. Quelques jours plus tard, vêtue d'un ciré trop vieux et poreux, la voilà qui brave l'Atlantique alors qu'elle est frigorifiée. Les polaires et le Gore-Tex n'existent pas encore, mais quelque chose l'attire dans cette gestion de la solitude, et elle est douée. Du côté de Pointe-à-Pitre, la foule des curieux s'épaissit, effectivement, et l'ambiance est fébrile. Il faut imaginer le désir ardent de revanche sur les Britanniques, le débat entre les monocoques et les multicoques, Alain Collat qui ne répond plus, Birch et Malinowski qui n'ont que 98 secondes d'écart sur la ligne d'arrivée, et cerise sur le gâteau, une petite môme qui arrive 11e. Alors que de nombreux marins abandonnent, et tandis qu'Alain Collat disparaît en mer... La jeune fille chaussée d'une botte jaune et d'une botte bleue, la peau bronzée et les nattes défaites, est parvenue à relever son challenge. À bord de l'Expérimental, son monocoque de 11 mètres, elle se classe deuxième de sa catégorie et 11e du classement général en 27 jours, 21 heures et 36 minutes, une performance. À tel point que le journal France Antilles la surnomme la petite fiancée de l'Atlantique. Un surnom qui lui restera toute sa vie.
Elle était très entourée, la petite Florence Artaud, à son arrivée à Pointe-à-Pitre. Et c'est dans un état de fraîcheur remarquable qu'elle a franchi la ligne dimanche matin en prenant une très jolie 11e place.
Vous faites 11e dans cette transat française, la première femme. Vous avez battu beaucoup de navigateurs très confirmés, c'est une très belle performance.
Oui, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux.
Vous pensiez vraiment pouvoir arriver avant ?
Oh oui, j'aurais dû arriver avant. J'aurais dû arriver avant si j'avais pas eu de casse. Au début, j'étais vachement mieux placée. J'étais dans les 4-5e avant les Açores. Enfin, disons que de toute façon, je suis contente d'être arrivée. Ça s'est pas trop mal passé.
Ça ne s'est pas trop mal passé, un euphémisme. Car pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et on l'applaudit. Mais elle désarçonne lorsqu'elle se dit marin, puisque le terme n'existe pas au féminin. Alors quoi ? Comment est-ce possible ? Qui est cette marine ? Qui brave les tempêtes, mais déclare avoir peur du diable et de dormir dans le noir. Tous s'interrogent, oui, car elle n'est pas la fille de marin breton, loin de là. Elle est même née loin des rivages, le 28 octobre 1957, dans l'ouest parisien. Elle grandit rue de la Tour, dans un hôtel particulier, avec vue sur la Tour Eiffel. La famille est aisée. Jacques, le père, a repris l'affaire familiale, une maison d'édition pour récits de montagnards, avant de la spécialiser dans des récits de navigateurs. Et il est le premier à encourager les marins à écrire, eux d'ordinaire, si taiseux. Il les aide à finir leurs manuscrits, les héberge parfois. C'est lui qui publie en 1964 les mémoires d'Éric Tabarly, un succès énorme. La mère, Anne-Marie, est une pied-noire qui, durant sa jeunesse, a remporté des régates à Alger. En somme, la voile est une passion commune chez les Artaud, un ADN familial. J'ai vu défiler à la maison tous ces auteurs, au regard délavé, aux aventures lointaines, confiera Florence, des années plus tard. C'est que, devant ces héros, la petite fille est fascinée, au point de vouloir leur ressembler. Alors, chaque été, elle s'entraîne. Facile, la famille possède une villa, dans le port de Saint-Père, entre Saint-Tropez et Saint-Raphaël, avec sa crique privée, son ponton et son garage à bateaux. C'est ainsi que la petite Florence devient régatière sur le Zoubida, le voilier de son grand frère, puis moussaillon sur l'Argade, le bateau de son père. Évidemment, la rentrée scolaire est difficile, le contraste un peu raide. Les garçons sont envoyés en pension. Florence, elle, est inscrite au prestigieux institut La Tour, en dépit de son attitude rétive. Mais la directrice, mère Marie Saint-Yves, apprécie la famille et professe Florence. Oh, il ira loin, vous verrez. Elle nous étonnera tous. C'est vrai que la jeune fille a déjà un caractère bien trempé. Et son échappatoire, c'est le Racing Club, où chaque week-end, elle pratique l'équitation ou le tennis. Et elle grandit vite, avec le goût des sensations fortes. Durant cette période, ses parents la récupèrent souvent à l'hôpital. Et puis un jour, l'accident est beaucoup plus grave que les précédents. Et il va changer le cours de son existence. Cet accident survient en mars 76, l'année du bac. Florence est en vacances en Normandie, mais plutôt que de réviser, elle préfère passer ses nuits dehors, à boire, à danser. Une nuit, elle accepte de monter dans la BMW d'un ami qui n'a pas son permis de conduire. Il roule vite, et au premier virage, la voiture dérape, Florence est éjectée dans un fossé. S'en suivent 6 semaines à l'hôpital de Fontainebleau, en soins intensifs, parce qu'il faut réparer ses deux fractures du crâne et ses hématomes au cerveau. Et puis surtout, réapprendre à parler, à marcher. Une période dont elle se souvient forcément, en l'occurrence ici en 2012, au micro de François Binel.
Mais en tout cas, j'avais congé tout de suite. Enfin, j'ai réalisé la précarité de la vie avec cet accident et en côtoyant tous les traumatisés qui traînent pendant des années ou enfin des mois entiers en sortant du coma dans les hôpitaux, en rééducation et tout ça. C'était que des gamins entre 14 ans et 25 ans. C'est sûr que depuis ce moment-là, j'ai toujours grillé la vie des debout et j'ai essayé de profiter de chaque instant, mais de façon intense et puis en choisissant des moments de vie forts et intéressants.
Et bien sûr, tous les sports lui sont interdits. Tous sauf un. La voile, réputée tranquille, tu parles. Alors va pour la voile. Et pour fêter son rétablissement, son père l'emmène en Angleterre, assister au lancement de l'Ostar, la transat anglaise en solitaire, une renaissance.
Il était 6 heures ce matin à Newport. Soudain, un long bateau à la coque noire, aucun doute possible. Le Penwick 6 avec bien sûr à son bord Eric Tabarly. Tabarly a mis 24 jours pour traverser l'Atlantique Nord.
Trois semaines plus tard, la voici qui saute dans un avion direction Newport pour assister à l'arrivée de la course. Un rêve, Tabarly en tête sur Penwick 6 sortant de la brume, comme une apparition. Puis Moitessier. Rodant sur le quai, elle parvient à entrer à l'Ida Lewis Club, d'ordinaire réservé aux marins confirmés. Mais ce jour-là, la chance est de son côté. Un type entre, ou une belle gueule de loup de mer, et après quelques minutes, il lui lance « Vous traverseriez l'Atlantique avec moi ?» À sa grande surprise, la jeune fille accepte. L'homme s'appelle Jean-Claude Parisis. Il a 30 ans, il embarque sur son Petrouchka, un monocoque en aluminium avec lequel il vient de gagner l'Ostar. À bord, il lui fait oublier ses mois d'hôpital et lui enseigne l'astronomie. Ensemble, ils font le point lorsque le soleil est au zénith et la nuit, ils attrapent les étoiles au sextant, prolongement naturel peut-être, quand on atteint le septième ciel. En somme, il est son premier amour. De retour à Paris, bouleversée, elle ne pense qu'à repartir, sèche la fac de médecine, fuit sa famille et pense sans cesse à lui. Rue de la Tour, chez les parents, à Paris, on s'inquiète. Bientôt, une dispute éclate, durant laquelle Florence déclare vouloir rejoindre Parisis à Antibes. Face au refus de la famille, elle attrape son passeport, laisse un mot sur son oreiller et elle fait le mur. Une belle crise d'ado qui l'amène à Antibes, bien sûr. Alors ses parents menacent de lui couper les vivres. Qu'à cela ne tienne, la jeune fille des beaux quartiers relève le défi de vivre d'amour et d'eau fraîche, salée en l'occurrence. Mais dans son genre, elle est très sérieuse. Chaque matin, elle rejoint l'école de voile de Markinsky. Les conditions y sont rudes, mais c'est durant ces deux années, justement deux années clandestines, qu'elle acquiert tout son savoir. Jusqu'au jour où le coéquipier de Parisis l'encourage à se lancer seule dans la première édition de la Route du Rhum, où elle se classe donc 11e à seulement 21 ans, une étoile de mer est née.
Affaires sensibles.
Cette première route du Rhum est une réussite, certes. Sauf que devenir navigateur ou navigatrice professionnelle implique de gagner sa vie entre chaque traversée et engendre une grande dépendance aux sponsors qui signent des chèques mirobolants pour l'achat des bateaux, bien sûr, sans parler de leurs incessantes réparations. Mais, coup de chance, après sa première route du Rhum, Biotherm désire sponsoriser Florence Artaud, en échange bien sûr, de publier reportages vantant les mérites de ses cosmétiques. Mais la petite fiancée de l'Atlantique n'est pas la meilleure des représentantes et n'en fait qu'à sa tête.
On verrait d'un bon œil que je vante les mérites de la maison quand je raconte mon quotidien de marin à la presse. Bah c'est pas mon boulot, et puis moi j'ai pas besoin d'antirides. Ils voudraient me faire ressembler aux mannequins de leur pub, cheveux courts, plaqués, visage ovale parfait. Ils aimeraient domestiquer ma crinière, bah c'est raté. Du coup, après la transat anglaise, ils m'annoncent leur désir de mettre fin à notre contrat, parce que je parle comme un marin. J'ai les mains calleuses, je me lave pas tous les jours, bah en fait je deviens un vrai loup de mer. Pas de maison, pas de limite. Je vis sur l'eau, un bandeau dans les cheveux, un anneau à l'oreille. Moitié beatnik, moitié pirate. Bah comme eux, citoyenne du monde, une seule espèce, celle des marins. Un seul langage, celui de la mer.
Pas de limite en effet pour la petite fiancée de l'Atlantique voileuse parmi les voileux, qui fait le tour du monde à sa guise avant de repasser à Paris faire la fête chez Castel. À la fin des années 80, le chanteur Pierre Bachelet, très amoureux d'elle, lui propose une chanson. Ce sera Flo. Une ritournelle, un brin mièvre, qu'elle accepte de chanter un peu malgré elle, alors qu'elle aurait préféré un tube rock ou bien repartir en mer. D'autant que, de plus en plus, les médias diffusent d'elle une image de chanteuse et de fêtarde, genre un homme dans chaque port. Un jour, excédé, son père lui avoue qu'elle lui fait honte et lui demande même de changer de nom. Invariablement, les journalistes la questionnent sur sa vie privée, de sa place de femme et de la misogynie réelle ou supposée des marins. Comme ici, au micro d'Yves Calvi.
Moi, j'ai tout de suite été bien accueillie parce que, comme je dis tout le temps, je crois qu'il y a plus de machos sur terre que sur mer. L'homme, le marin, c'est pas un macho. Et en plus, il y a une grande famille de marins, qu'on soit pêcheur, marin au long cours ou dans la Royale, ou navigateur ou simple plaisancier. Le fait d'être marin, d'être sur l'eau, les marins vous reconnaissent comme marin dans la mesure où vous avez fait vos preuves. Et ils savent très bien ce que vous vivez, les souffrances que vous endurez, donc ils vous respectent.
Oh, elle les défend, les marins, mais elle les combat toujours dans le but ultime de les dépasser. C'est une compétition, rien d'autre. Et ce rôle de navigatrice sexy, cheveux au vent, parfumée au caron, ne comble pas son désir initial, être la première. À la fin des années 80, elle parvient à gagner la confiance du promoteur Christian Garel, qui lui confie, en vue de la 4e édition de la Route du Rhum, le bateau Pierre Ier, un multicoque de 17 mètres de large et 18 mètres de long. Pour Florence, qui a désormais 33 ans, c'est l'année ou jamais pour s'imposer. Le contrat signé, l'ambiance est à la fête. Puis c'est le début de la course. Dès le 4e jour, en dépit d'un problème de cervicale qui l'oblige à porter des minerves, elle prend de la vitesse et double Bruno Perron, dans un front où elle gagne 100 000 sur toute la flotte. Elle prend la tête. Puis soudain, rideau. Plus d'image, plus de son. Sa radio tombe en panne et s'ajoute à ses problèmes techniques un grave malaise physique. Oui, en pleine mer, Florence sent qu'elle se vide de son sang. C'est une fausse couche qui la prend par surprise alors qu'elle est seule à barrer au milieu de l'océan. Sans médecin à qui parler, munie seulement de sa trousse de secours, elle tient 3 jours avant de s'offrir quelques heures de sommeil. Et là, elle se réveille dans un état second, ignore sa position par rapport aux autres, mais continue de barrer de façon instinctive, avec acharnement. Puis la douleur se calme, comme une récompense. Alors demeure cette implacable envie d'arriver, jusqu'à ce qu'un matin, à l'aube, elle aperçoive la Désirade, la première île qui annonce la Guadeloupe. L'arrivée est proche, c'est clair. Alors, elle cherche du regard les autres voiles, mais où sont-elles ? Quel sera son classement ?
Ah non, je ne savais absolument pas où ils étaient. J'ai été survolée il y a 4-5 jours, il y a 3-4 jours par un brigand atlantique de Thalassa. Et à ce moment-là, je ne voulais pas utiliser ma VHF pour pas utiliser trop de batterie.
Puis un avion passe, c'est Olivier de Kersauzon qui lui apprend qu'elle est première. Son cœur chavire. « Je gagne, je les banane tous », écrit-elle dans son livre « Un vent de liberté ». Pourquoi ai-je gagné? Sans doute parce que c'était mon tour et que je l'avais mérité. Voilà. Nous sommes le 19 novembre 1990. Sur France Inter à 7h, Denis Astagnaud annonce la victoire de Florence Artaud.
France Inter.
Bonjour. Dans la série Toujours plus forte, ce matin, Florence Artaud, cette jeune femme de 33 ans, vient de donner une bonne petite claque au grand macho en coupant en vainqueur, pour ne pas dire en vainqueuse, la ligne d'arrivée de la route du Rhum. C'était hier soir, peu après 18h, heure de Pointe-à-Pitre. Florence Artaud avait du mal à réaliser la portée de son exploit.
Bah, je suis contente, évidemment. J'en reviens pas, je crois que je réalise pas encore, vraiment. J'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir. Et je pensais que j'ai même failli abandonner. Et puis, je me suis dit, non, je n'abandonnerai pas, j'ai jamais abandonné, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
Et les parents de Florence se jettent dans ses bras, la foule se presse, un feu d'artifice est lancé. Au milieu de la cohue, le reporter de FR3 parvient à recueillir le sentiment de son sponsor, Christian Garrel, qui, avec le bateau Pierre Ier, a investi tout de même 35 millions de francs sur Florence Artaud.
Ça vous intéresse d'avoir sa première réaction,
Georges ? Tout à fait, Bernard. C'est un homme qui a aussi fait le pari de la course.
Et c'est le pari qu'on s'était donné 5 ans pour réussir, on a mis 2 ans et demi. Des femmes qui m'ont les plus impressionné de ma vie, peut-être même la première.
Et il n'y a pas que lui qui l'admire. Florence est là prête à Barly. On va en prendre pour 20 ans, lance Alvar Mabir, l'un de ses concurrents. Voilà, c'est la gloire. Non seulement, elle devient la première femme à gagner une transatlantique en solitaire, mais en 9 jours, 21h42, elle pulvérise le record de Philippe Poupon. Pardon, titre Libération, qui avait osé publier un terrible « Barre-toi, Camé, retourne au soleil du pastis, Papa Jacques paiera la tournée ». Quelle revanche! Florence Artaud a gagné sa légitimité et les flashs ne crépitent que pour elle. On lui crée même une place au musée Grévin, oui, entre Michael Jackson et Mère Teresa. Les politiques se bousculent à ses côtés, comme Michel Rocard, avec qui elle accepte de dîner. On lui propose également de devenir la marraine des Jeux Paralympiques de Val d'Isère. En souvenir de ses années d'hôpital, elle accepte.
Quand je suis en mer, il ne me manque rien.
Cette même année, grisée par le succès, elle imagine créer un trophée Jules Verne en compagnie de ses amis Tito Lamazou, Jean-François Coste et Yves Le Cornec. L'idée est de faire comme Phileas Fogg, effectivement le tour du monde en 80 jours, seul et à la voile, à l'ancienne, sans aucune escale, en se fiant au vent et aux étoiles. Mais il faut trouver des investisseurs, une fois de plus. Et la crise immobilière des années 90 freine les investissements. En outre, la loi Evin, qui interdit les affichages pour le tabac et l'alcool, fait beaucoup de mal à la profession. Le 5 novembre 1994, Libération s'interroge. Le creux de la vague, et alors ? Et alors ? Florence Artaud se réinvente, là où on ne l'attendait pas. Enceinte du navigateur Loïc Lingeois, elle accepte de se poser. Et c'est en Bretagne qu'elle jette son dévolu, où elle acquiert un fort datant de 1851, au bout d'un chemin qui se perd vers l'ouest, avec vue sur les îles d'Ouessant et Molène. Dans Paris Match, elle raconte.
Je suis très heureuse, je me sens en forme, même trop. Au début, je faisais 6 heures de cheval par jour, j'ai fait du ski aussi, et une bonne chute. Mon toubib m'a dit que j'étais folle. Je lui ai répondu que j'allais pas tout arrêter parce que j'avais un truc de 5 mm dans le ventre. De toute façon, mon gros ventre, je le cache, c'est pas beau, ça me gêne. Me mettre de la crème sur les seins aussi, j'ai horreur de ça. J'essaie de vivre à ma façon, plus que 10 clopes par jour, puis un petit coup de vin de temps en temps. Ça fait de mal à personne.
Vent de la mer, vent de la liberté, dans ces mots, rien ne modère Florence Artaud, pas même une grossesse donc. Marie, née au mois d'août. Et quelques mois plus tard, Florence l'embarque dans un tour du monde, la promène de plage en plage. Dans la foulée, elle se sépare de Loïc Lingeois et décide de déménager à Marseille, dans le quartier de la Madrague. Elle continue de chercher des sponsors, encore et toujours, sans jamais parvenir à progresser dans cet exercice. Parce que le faste des années 80, les années fric, est derrière elle. Alors, elle accepte de jouer les coéquipières avec Jean Le Cam pour la course du Figaro ou pour la G2R avec Jean Morel. Et ils s'amusent follement, mangent du caviar à bord et arrivent quatrième. Puis elle se lance avec Bruno Perron cette fois dans la Transpacifique entre Los Angeles et Honolulu. et en à peine 5 jours, il gagne la course. Maintenant, effet inattendu. En ayant ouvert la voie aux filles, voilà que d'autres navigatrices commencent à lui voler la vedette. Le revers de la médaille. Dans Libération, Luc Levaillant écrit « Cet automne, Artaud aura 40 ans et la France l'a un peu perdu de vue. Isabelle Autissier et Catherine Chabot, plus sereines, plus réfléchies, moins pimbèches, moins stars, lui ont volé une part de singularité. Et puis, elle traîne l'image de ringard d'estampillé années 80 et ses déboires avec l'alcool n'arrange rien. En août 2000, en escale à Saint-Nazaire, au terme de la deuxième étape de la course en solitaire du Figaro, elle retrouve son concurrent, Christophe Lebas, dans un bar. Ils boivent jusqu'à l'aube, et alors qu'il se présente en état d'ivresse à l'hôtel, la situation dérape.
Le commissariat est arrivé par la suite, mais bon, c'est vrai que Florence Artaud, déchaînée, s'en est pris à ma femme en lui donnant des coups de pied dans le ventre, et puis les gendarmes sont arrivés par la suite.
À noter que la femme de l'hôtelier, sous le choc, a dû être transportée à l'hôpital de Saint-Nazaire. Quant à Florence Artaud, elle a passé la matinée au poste de police. Elle comparaîtra le 14 octobre prochain devant le tribunal correctionnel.
Le lendemain, sur le port, l'histoire ne surprend pas tout le monde. Certains réclament une expulsion de la course. Ils s'en sortiront avec une comparution au tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour dégradation et violence volontaire. Au journal L'Équipe, toujours aussi lucide, Florence confie « Oui, j'ai eu des soucis avec l'alcool, mais c'est bien fait pour ma gueule, j'ai déconné. J'assume, je le reconnais. Je n'ai plus de permis, alors depuis, je roule à vélo. » Un an plus tard, son frère Jean-Marie, qu'elle surnomme le soleil de mon enfance, se suicide. Comment rebondir? Décidément, ces années 2000 s'annoncent sinistres. Elle, qui ne rêve que de reprendre la mer, comprend qu'elle fait partie des légendes du passé. Alors, elle tente de se justifier avec la franchise qui la caractérise. Oui, j'ai mal au dos, mal aux os, mal partout. Vous savez, 30 ans de mer, ça use. Parfois, on me dit, oh, qu'est-ce que vous ressemblez à Florence Artaud? Mais vous êtes mieux qu'elle, hein? Elle fait un peu taper Artaud, non? Même quand elle est maquillée à la télé, elle est marquée, hein? Le 22 mai 2006, c'est au tour du Figaro de s'interroger. Que devient Florence Artaud? La question intrigue. Eh bien, elle s'est mariée, Florence Artaud. Oui, avec Éric Charpentier, un amour de jeunesse, recroisé sur les mers. La fête donnée à Porquerolles est fastueuse. Mais le mariage ne dure pas. Que voulez-vous? Je n'ai pas de talent pour la vie de couple, confie-t-elle. Je voulais juste me marier en gardant ma vie de pirate. Mais ce mariage fut un naufrage avant même le voyage de noces. En vérité, comme Kersauzon et Moitessi avant elle, elle rêve de tout plaquer pour la Polynésie. Mais sa fille collégienne a encore besoin d'elle. Alors elle reste. Au pied de chez elle, à la Madrague, elle regarde son dériveur rose fuchsia. Au vieux port, son voilier nommé l'Argade 2, du nom de ce vent d'ouest qui soufflait sur Marseille. Et elle rêve de reprendre le record du tour du monde à Hélène MacArthur et les faire tous enrager. Alors, en 2010, c'est plus fort qu'elle. Elle tente à nouveau sa chance et déclare « Quel plaisir ce serait si avant de prendre ma retraite, je pouvais tous leur mettre une déculottée. » Oui, mais avec quel bateau? Elle aimerait tant que Kersauzon lui loue son Géronimo. À moins, une fois de plus, de trouver un sponsor. Mais la tâche est tellement rude pour les femmes de 50 ans, même lorsqu'elle se nomme Florence Artaud. Oh, elle arrive bien à trouver deux sponsors, mais il lui manque encore 450 000 euros, une montagne. Alors, elle plaque tout et disparaît seule sur les mers durant un mois et demi. Et c'est durant cette échappée qu'elle décide d'arrêter les courses, définitivement. La mer devient alors plaisir solitaire. Algérie, Tunisie, Rome, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2010, seule avec son chat Bilka, Kabyle en verlan, elle longe la Corse à bord de l'Argade. La mer est calme. Vers minuit, elle téléphone à une amie, puis part soulager une envie pressante sur le pont. Mais soudain, en une fraction de seconde, elle perd l'équilibre et chute dans une eau à 18 degrés sans gilet de sauvetage. dit en Bretagne que la plupart des marins retrouvés noyés ont la braguette ouverte. Dont acte. Sur pilote automatique, son voilier s'éloigne et disparaît dans la nuit. Il faut vite trouver un repère, un signe de vie, mais rien, hormis l'immense masse sombre et mouvante de la mer. Rapidement, l'eau alourdit ses vêtements. Elle ôte ses bottes, tente de maintenir une flotte à la verticale et bouge sans arrêt pour ne pas se refroidir. L'ombre de Tabarly la hante. Les minutes passent, figées dans l'effroi. C'est maintenant de sa veste de quart qu'elle doit se délester. Et là, miracle, elle sent dans sa poche le téléphone étanche acheté en Algérie quelques jours auparavant. Alors la scène lui revient en tête. Cet appel passé à son ami, cette envie pressante, ce geste de le placer dans sa poche le téléphone au lieu de ranger dans le cockpit. L'espoir renaît. De l'eau de mer plein la bouche, elle cherche du réseau, pianote au hasard pour rejoindre sa mère. La suite, elle la raconte au micro de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, ça y est, ils ont retrouvé mon bateau. J'avais pas mes lunettes, mais j'avais quand même une frontale. Je tenais le téléphone comme ça hors de l'eau et j'essayais de... Alors il fallait que je rentre, mais mon code PIN, j'arrivais pas à trouver les touches et tout ça parce que j'y voyais rien. Et puis au bout d'un moment, ça marche, je dis génial. Et puis au pif, j'essaye de faire répertoire M, maman. C'est toujours sa maman qu'on appelle dans ce cas-là. Ma mère a appelé mon petit frère, j'avais une position à peu près exacte.
On pouvait remonter. On est arrivé au bon moment, une demi-heure de plus, et je pense qu'il y aurait pu y avoir une issue fatale pour elle.
Eh non, heureusement, pas d'issue fatale, du moins pas cette nuit-là. Le diable n'a pas voulu de moi, lance-t-elle. Alors, prenant la mesure de sa chance, elle décide de créer une fondation pour soutenir l'accès à l'eau potable, offre le bel espoir, un 3 magoëlette, à un centre de désintoxication pour jeunes drogués. Elle embarque des jeunes filles suicidaires pour des croisières dites de guerrières, organisées par le psychiatre Xavier Pomereau. Elle aime l'idée de la réinsertion sociale et du soin. Un rappel, sans doute, de ses jeunes années, lorsqu'elle se destinait à devenir médecin. En 2015, toujours aussi intrépide, elle accepte de participer à une émission de télé-réalité, Dropped, qui signifie « largué ». Le principe, envoyer des stars du sport, toutes disciplines confondues, retrouver leur chemin dans une nature hostile, sans carte ni boussole. Produite par la société Adventure Line Production, la LP, également productrice des émissions Koh-Lanta et Fort Boyard, l'émission parvient à convaincre, entre autres, les nageurs Alain Bernard et Camille Muffa, la cycliste Jeannie Longo, le patineur Philippe Candeloro et Florence Artaud. Le tournage débute fin février à Ushuaia, au sud de l'Argentine, avant de remonter vers le Chili, dans la région de la Rioja. L'ambiance est bon enfant, après tout, tout cela est fun, et Florence joue le jeu. Elle est la doyenne des participants, mais après tout, la survie, elle connaît. Le 9 mars, vers 17h, la production les sépare en trois équipes. Deux d'entre elles montent en hélicoptère direction inconnue. La troisième reste au sol et les regarde partir. Florence Artaud monte dans l'un des hélicos côté de la nageuse Camille Muffa et du boxeur Alexis Vastine. On leur bande les yeux, on leur fait une ou deux blagues et hop, c'est parti. Le premier hélicoptère s'envole, prend de la hauteur, puis c'est au tour du second qui s'élance, mais qui s'approche dangereusement du premier. Et soudain, les deux appareils se télescopent et prennent feu.
L'accident vient de se produire.
Oh, c'est une bombe.
Au loin, on aperçoit une fumée. Des habitants qui assistaient au tournage et des membres de la société de production se précipitent. Il est trop tard. Au sol, les carcasses des hélicoptères en feu.
Le drame saisit la France entière, qui peine à croire que la petite fiancée de l'Atlantique, celle qui avait bravé tant de tempêtes, celle qui semble si invincible, puisse ainsi disparaître. Ce jour-là, l'Élysée fait part de sa stupeur et de son émotion, tandis que Manuel Valls à Matignon déclare « C'est toute la France qui est en deuil ce matin ». Mais c'est surtout l'indignation unanime envers ces émissions de télé-réalité si vulgaires, inconséquentes, qui se manifestent. La production se défend contre ceux qui l'accusent d'avoir opté pour des hélicoptères bas de gamme, arguant qu'il s'agit là d'une erreur humaine. Las. En quelques secondes et dans les airs, apparaît celle qui, depuis sa jeunesse, ne devait son salut qu'à la mer.
Navigateur, solitaire, tu traverses les univers. Navigateur, solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Si les vagues sont tes maîtresses, ta femme c'est l'infini. Ni satellite, ni GPS, seule la belle étoile au ciel. Navigateur, solitaire, tu as grandi les univers. Navigateur, solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Des corps de femmes alanguis. La lune ne s'allume qu'à pour toi. Unique adorateur de l'univers.
Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui. Florence Artaud, dont nous allons parler avec notre invité Yann Kefelek. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Calman Levy La mer et au-delà, un récit consacré à la vie de Florence Artaud, que vous présentez, comme, c'est joli d'ailleurs, comme une Antigone indomptable.
Indomptable et indomptée, c'est une personne qui n'a cessé de dire non à la société, à sa famille, à son enfance, à son destin. Non à tous ceux qui voulaient lui dire non, et oui à ce qu'elle pressentait chez elle, c'est-à-dire cette Florence Artaud qu'elle a fini par ne jamais rattraper, parce que en vous écoutant tout à l'heure, j'étais frappé par l'impression qu'on a le sentiment de la connaître.
Oui.
On a le sentiment qu'elle se divulgue, qu'elle ne cache absolument rien, qu'elle est toujours d'accord comme ça pour dire la vérité sur ce qui lui arrive. En réalité, c'est impossible de savoir qui est Florence Artaud. Et lorsque j'ai écrit ce récit, moi j'ai commencé par effectivement me documenter de tous les côtés, y compris auprès d'elle-même, en réécoutant comme ça les interviews qu'elle avait pu donner. Et je me suis rendu compte, après avoir réécouté tous ces documents, que je ne savais rien de plus sur elle que ce que j'avais, non pas à imaginer, mais à deviner à travers cette personne indomptable et indomptée dont elle nous laissait le souvenir.
Et c'est peut-être souvenu d'une formule, garde ton secret, tu en seras le maître, divulgue-le, tu en seras l'esclave.
Mais c'est magnifique, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, elle a emporté son secret avec elle. Je pense qu'elle était un secret pour elle-même aussi, d'ailleurs, qu'elle n'a cessé de courir évidemment après la mer, évidemment après le succès sur mer, face à ses concurrents masculins qu'elle narguait tant et plus et qu'elle aimait par-dessus tout. Mais au bout du compte, elle voulait se rejoindre elle-même, ce qu'elle n'a jamais fait, et ce que personne peut-être ne fait jamais.
Le personnage que vous connaissez, la femme, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
On peut dire que c'était une femme irrésistible. D'abord parce qu'elle avait reçu ce don du diable dont elle parle, qui est la beauté, le charme et ce pouvoir comme ça d'envoûtement auprès des hommes auxquels tout le monde était sensible, y compris les garçons dans sa famille. Son père l'adorait, son frère Jean-Marie n'avait Dieu que pour elle et que de fascination que pour elle, à la fois en tant que sœur mais en tant que femme, parce qu'il se rendait compte comme ça de la force qu'elle avait, qui était une force tout à fait comparable à celle de ses homologues masculins. En plus, elle avait un don réel pour le sport, pour l'aventure, pour la voile et pour le vent. Elle était célèbre pour sa capacité à attirer la risée lorsque le vent était nul pour les autres. Et lorsque toute une régate s'encalminait comme ça sur les eaux méditerranéennes plongées dans le calme plat, Florence était capable de faire décoller le Zoubida, le bateau de son frère, et d'arriver première. Ils étaient détestés sur la Côte d'Azur parce qu'ils arrivaient toujours premiers, Jean-Marie et elle. Et ce don s'est retrouvé toute sa vie d'abord de ces différents bateaux. C'est pas du tout un hasard si elle arrive 11e en 78 dans sa première traversée de l'Atlantique. Elle aurait parfaitement, comme elle le dit d'ailleurs, c'est un peu vexant pour les autres, mais elle aurait très bien pu se classer mieux encore que 11e. Simplement, elle a cassé sa drisse au dernier moment et c'est sûr qu'elle a perdu des places.
Alors, on vient d'entendre, en tant que deuxième disque d'illustration pendant le récit, la chanson de Pierre Bachelet, Flo, c'est touchant.
C'est beau, faut pas charrier. On a été très injuste avec cette chanson.
Oui, c'est touchant parce que
elle est belle aussi. Il y avait une véritable histoire d'amour entre eux. Et Florence était très, elle adorait chanter. Florence était quelqu'un qui chantait toute la journée. Ils avaient leur chanson fétiche, à moi fort bon que m'importe la gloire. C'est-à-dire, elle l'a prouvé qu'elle était à la fois fort bon et que la gloire lui importait peu et que la mort lui importait peu parce que la mort, elle n'a cessé de la défier à tous les âges de sa vie. Mais lorsqu'elle a chanté avec Pierre, elle était extrêmement heureuse de cette bluette comme ça, de cette espèce de parenthèse en amoureux qu'elle vivait, enchantée, qu'elle vivait avec lui et dont tout le monde s'est allègrement moqué parce que le monde est méchant.
Mais oui, alors vous n'êtes pas méchant, mais enfin vous ne tirez pas les pompes, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans votre livre, parfois, vous êtes critique. D'ailleurs, on vous a fait remarquer qu'on n'est pas dans la géographie du tout.
Alors pas du tout.
Vous vouliez, c'était quoi votre intention éditoriale?
Mon intention, aucune intention éditoriale. Simplement, je répondais à Florence qui, lorsque je la voyais, me disait, écoute, on va faire un livre ensemble. Et à chaque fois, je disais, mais non, Florence, tu es fille d'éditeur, tu as le sens de la parole, comme tu as le sens de la mère. Fais ton livre toi-même. Tu n'as aucun besoin de moi. Et lorsque j'ai vu les deux hélicoptères trinquer en plein ciel, là, se télescoper le jour de sa mort, là, je me suis senti frustré, effectivement, de cette écriture que nous aurions pu mener ensemble. Je me suis senti un petit peu en dette vis-à-vis d'elle. Je me suis dit, mais en fait, je connaissais Florence Artaud et je ne la connaissais absolument pas.
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure.
J'ai écrit ce livre pour faire connaissance. J'ai à la fois fait connaissance, mais j'ai fait connaissance d'un extraordinaire mystère. J'ai redécouvert une femme saisissante sur tous les plans. Charmante en tant qu'amie, extrêmement dangereuse, j'imagine, en tant qu'amoureuse, et une femme de mer hors du commun, et ce personnage d'Antigone auquel je la compare, et ça me paraît essentiel, quelqu'un qui est capable de dire non. C'est très difficile de dire non face à la collectivité.
C'est la définition de la liberté, c'est savoir dire non.
Assumer la liberté du non face à la collectivité comme ça, qui ricane de vous et qui essaye de vous entraîner dans une direction qui n'est pas la vôtre, ça, c'est là où on reconnaît, c'est à cela qu'on reconnaît aussi la championne, la femme de cœur et l'être humain remarquable.
Alors les comparaisons sont parfois hasardeuses, je me lance quand même. Pour moi, elle est un petit peu... C'est un petit peu Alain Colas au féminin.
Non, c'est assez bien vu. C'est-à-dire qu'Alain Colas ne vient pas de la mer. Hein. C'est
Bourgogne.
Il a, comme Florence, il avait une fascination pour Éric Tabarly. Il voulait être aussi bon que Tabarly. Florence aussi voulait être aussi bonne que Tabarly. Alors, la grande différence, c'est qu'elle a gagné et que lui n'a pas gagné. Sinon, effectivement, il a eu un accident comme elle. Ouais. Son accident lui a été fatal à sa carrière de marin, alors que l'accident de Florence Artaud, au contraire, n'a cessé de la doper. Et de cette espèce de handicap, elle a fait sa force toute sa vie. L'accident et ce destin comme ça qu'il a cherché au tournant et qu'il ne l'a trouvé pas, d'ailleurs. Le destin en avait assez de titiller Florence et de vouloir lui mettre fin à sa carrière et à ses jours. Et c'est un hélicoptère qui a fini par incarner cette espèce de malédiction du destin, mais voilà, sur mer, la mer lui a toujours pardonné et elle a toujours été l'amie de la mer.
Et quand je faisais la comparaison aussi, c'était pour cette capacité rouflaquette d'un côté, et puis certaines façons de vivre de l'autre. Ce sont deux personnes qui savent dire non à un système, que ce soit Florence ou Alain. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on disait dans le récit, quand elle doit faire une pub pour je ne sais pas quelle cosmétique. On sent que c'est Bioterme. Pas son truc, quoi.
Ouais, Bioterme. Oh bah, faut dire que c'est assez extraordinaire. elle est quand même sponsorisée par Bioterme. Elle est capable de dire à la fin de la course non, moi je ne mets jamais aucune crème sur le visage. Je préfère à n'importe quoi le savon de Marseille. Vous voyez, ça, c'est
donc, excellent.
Évidemment que Bioterme a tiré un tout petit peu la tronche à ce moment-là.
Bon, on va écouter une archive rare qui date de 1979, dans laquelle Florence Artaud, du haut de ses 21 ans à l'époque, montre une certaine force de caractère, un brin fille à papa également. Écoutez.
La possibilité de choix, enfin c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde a le choix. C'est pour ça que moi, souvent, il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens qui me disent « Ah, vous avez bien de la chance de faire du bateau, des trucs comme ça, etc. » Alors que les pauvres, ils sont obligés de travailler pour gagner leur vie. Bon, mais s'ils travaillent, c'est qu'ils l'ont choisi, c'est qu'ils ont voulu travailler. Alors, s'ils se plaisent pas en travaillant comme ça, qu'ils estiment que nous, on a de la chance, eux, ils peuvent avoir exactement la même chance.
Ouais, alors, apparemment, c'est catastrophique d'entendre ça. Mais au contraire, pas tant que ça. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui s'est arraché à son milieu devenir Florence Artaud. Et qui n'a pas hésité, après ce genre de déclaration, à se clochardiser pour bien prouver qu'elle était capable de choisir sa destinée de marin en dehors de tous les avantages matériels que sa famille aurait pu lui procurer. Elle a vraiment prouvé qu'elle était capable de dire non à l'argent, de dire non à son éducation et de se lancer sur les mers par elle-même.
Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai écrit ce livre aussi pour faire connaissance avec elle, mais moi je pense que vous faites aussi connaissance un peu avec vous, parce qu'il y a comme des parallèles. Vous naissez, je crois, après la guerre, dans une famille aisée, littéraire, comme elle, dans votre jeunesse, vous donnez des cours de voile. Vous me dites, c'est vrai ou faux, hein, pour financer vos projets, comme elle, c'est à Paris que vous avez l'impression d'être en escale, comme elle, en somme, votre vie est ailleurs.
Hein, non, mais je me suis senti en fraternité et presque en gémellité avec Florence Artaud en écrivant ce livre. Mais simplement, moi, j'ai pas gagné la route du Rhum en 90. Et voilà, j'ai absolument pas le parcours sur mer qu'elle a pu avoir. Mais j'ai un autre parcours d'ailleurs. Et je me plains absolument pas de ce que j'ai pu faire. Mais c'est vrai, je me sentais extrêmement proche d'elle, extrêmement proche de ses refus, extrêmement proche de ses plénitudes, extrêmement proche de ses peines, de ses solitudes. Enfin, je n'ai jamais été dépaysé par le personnage de Florence Artaud et je croise le doigt. Simplement, j'espère vivre encore extrêmement longtemps.
Pour elle, vous étiez, je le prenais pas mal, hein, parmi ses relations, l'écrivain de service.
Non, on n'avait pas d'écrivain de service, non, pas du tout. Je pense qu'il y avait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire comme par hasard, elle a terminé un de ses livres à Molène, à l'hôtel du Castel Andol, où moi-même j'avais séjourné pour écrire un de mes livres, où mon père avait séjourné pour écrire un de ses livres. C'est-à-dire comme par hasard, nos chemins se recroisaient régulièrement, et chaque fois on se disait, mais c'est bête qu'on ne se voit pas davantage, c'est dommage qu'on ne soit pas plus amis, c'est dommage qu'on ne fasse pas du bateau ensemble, de l'écriture ensemble. Et mystérieusement, ça ne se faisait pas. Donc ça s'est fait quand Florence n'était plus là.
On va parler de sa fin tragique, justement. En mars dernier, son frère Hubert a déclaré au journal du dimanche « Je me bats pour que plus jamais des gens sans moralité ne risquent la vie d'autrui pour des retombées financières. » Là, il épingle les émissions de ce type-là. « J'espère la vérité lors du procès qui aura lieu fin 2022 ou début 2023, où la production ALP est mise en examen pour homicide involontaire, bien sûr, involontaire. Dans votre livre, lorsque vous imaginez ces derniers instants, vous avez ces mots terribles, les yeux bandés comme un gibier de potence.
Oui, mais c'est pas du tout une attaque contre ces fameuses émissions, effectivement, les yeux bandés comme un gibier de potence, parce que il se trouve qu'à cet instant-là, ben, les deux hélicoptères se sont télescopés et que Florence a trouvé la mort avec les yeux bandés, en plein ciel, dans l'obscurité la plus noire. C'est certain que c'est pas les conditions idéales pour rêver et transmettre ses dernières volontés. Encore qu'on ne sache absolument pas ce à quoi elle a pu penser à ce moment-là. Et dans mon livre, ne voulons pas laisser le dernier mot au feu, eh bien, j'ai imaginé comme ça une fin maritime, une pensée maritime qu'elle a pu avoir, J'ai même imaginé qu'elle entendait la voix de son frère à ce moment-là, ce qui n'a strictement rien d'impossible, parce que personne ne sait ce qui se passe lorsque les choses s'achèvent. Mais après tout, elle avait envie, elle avait ce besoin d'aventure à ce moment-là. Quand elle a accepté cette émission, c'est en voilà, elle prenait ses responsabilités. Hein, c'est pas, on peut pas non plus toujours accuser les autres. En fait, je crois que les pilotes étaient des gens parfaitement compétents. Qu'un accident peut arriver. C'était certainement pas le bon moment, effectivement, pour monter à bord de cet hélicoptère. En plus, elle prenait la place d'Alain Bernard. C'est étonnant. À la dernière seconde, c'est pas Alain Bernard qui est monté dans l'hélicoptère, c'est Florence Artaud.
Ils appellent ça le destin.
C'est le destin, ça veut dire quand même qu'il y a peut-être une part d'écriture dans ce qui nous arrive.
Eh oui. Il y aurait beaucoup à dire encore sur son parcours. Moi, je voudrais retenir cette belle définition que vous donnez d'elle. Il y en a d'autres, mais moi, j'ai retenu celle-là. Cet ange au moral d'acier traversait la vie comme on traverse la mer, et chaque instant qui vaille, au risque de se perdre, bien conscient que la liberté d'agir pour les vivants est un luxe qui peut coûter cher à ses obligés. Vous reconnaissez, hein?
Je trouve ça pas mal quand je l'entends, mais bon, je vais quand même pas le dire.
Non, bien sûr. Mais c'était voilà, je voulais citer.
Non, mais je vous remercie.
Quelques mots. On a parlé oui, il nous reste une minute, du Bégalet de Braise tout à l'heure. Je vous avais reçu ici dans cette émission pour Bégalet de Braise. Aujourd'hui, quel est votre sentiment sur cette histoire? On en a reparlé il n'y a pas longtemps.
Mon sentiment, déjà, c'est que les gens de mer sont des gens immenses. Hein. Ne pas oublier que Florence Artaud, c'était quelqu'un d'immense en tant que femme de mer. On ne se rend absolument pas compte, lorsqu'on est un terrien, de la puissance de ce que l'on ressent sur l'eau, de ce que l'on affronte, de ce qui vous est donné par la mer, de ce qui vous est éventuellement pris par la mer. C'est vrai pour ceux qui font la course au large, et c'est vrai aussi pour ces pêcheurs, qui ne sont pas simplement pêcheurs pour arracher le poisson à l'eau et pour faire vivre leur famille et pour nous donner du bonheur à nous qui sommes des gourmands, mais également parce qu'ils sont happés par le charme de la mer, et c'est un charme complètement indéfinissable pour ceux qui ne le connaissent pas.
Mais ce sentiment de voir la bataille une fois de plus, la bataille du pot de fer contre le pot de terre, et que c'est le pot de fer qui gagne, c'est révoltant.
Ouais, c'est horrible, mais bon, c'est pas que j'en ai pris mon parti, c'est que tout le monde sait bien ce qui est arrivé à ce bateau, à ce Bugalet Braise. Ça ne sera jamais dit, ou ce sera dit dans 50 ans, quand ça n'intéressera plus personne, mais en tout cas, c'est impossible qu'il soit allé au fond de l'eau dans les conditions naturelles, comme on essaye de nous le faire croire encore aujourd'hui.
Puisqu'on parle de bateau, vous êtes marin également, ça tient quelle place dans votre vie, en volume, d'être sur l'eau? Il y a le temps que vous passez à écrire, le temps que vous passez à vivre, et puis le temps que vous passez sur l'eau.
Écoutez, je passe intérieurement tout mon temps sur l'eau, absolument tout. Il n'y a pas une seconde qui ne soit pas consacrée à la mer, dans ma tête, dans mon cœur. Et, alors évidemment, je préférais avoir un bateau sous les pieds. J'ai voulu, moi, avoir un bateau sous les pieds toute ma vie. Je ne me suis jamais senti autant en équilibre avec moi-même que lorsque j'avais le déséquilibre aléatoire d'un pont de bateau sous les pieds. Donc c'est pas en termes de horaire, si vous voulez, qu'on peut calculer le temps que l'on passe avec la mer. C'est une situation à la fois intérieure, et j'espère réembarquer pour de vrai le plus vite possible.
Bien, ça vous fait penser à... En vous regardant, j'imaginais la Bretagne, l'eau, les embruns. C'est pas des clichés, c'est une réalité. Je pensais à cette belle parole du chanteur Jean-Michel Karadec, vous savez, Jean-Michel Karadec, quand il disait « Elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut ». Ça va être très joli, ça.
Mais elle est belle, la Bretagne, quand elle pleut, parce que c'est vrai qu'elle est belle quand elle pleut, la Bretagne. Et de toute façon, la pluie, ça n'est pas laid du tout. On a fait du bon temps, quelque chose d'ensoleillé, de la pluie, quelque chose de vilain. C'est absolument faux, c'est magnifique.
Sur ta Bretagne, exactement. Yann Kefelec, merci infiniment.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Florence Artaud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Florent Layeni.